Le meilleur de l'info, bonsoir, émission bousculée évidemment en raison de l'actualité, puisque vous l'avez entendu, une riposte se prépare en Israël contre l'Iran. Quelle sera l'ampleur? Quelle est la date précisément? On ne sait pas tout à fait encore ces informations, on va essayer d'en savoir plus et de décrypter ce qui se passe avec ce soir Pierre Lelouch. Bonsoir Pierre,
bonsoir.
Ancien ministre spécialiste de politique internationale, général Vincent Desportes, bonsoir. Bonsoir, ancien directeur de l'école de guerre, Meir Habib, qui est avec nous également, député UDI des Français établis hors de France. Donc, riposte imminente, le mot est important, imminente d'Israël contre l'Iran. Dans les prochaines heures, peut-être même les toutes prochaines minutes, le chef de l'armée israélienne a fait une déclaration à quelques minutes qui semble tout à fait catégorique. On va commencer par l'écouter.
Nous regardons vers l'avenir, nous envisageons nos prochaines actions et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte.
Bon, pour être très clair, général, le cabinet de guerre israélien s'est réuni dimanche, aujourd'hui, et peut-être dans les prochaines heures, sur la réponse à donner à l'attaque iranienne. Et le monde, ce soir, retient son souffle.
Absolument, absolument. Moi, j'espère encore qu'il y aura encore suffisamment de raisons en Israël pour que cette riposte ne soit pas lancée. Je crois que rien de bon n'est à en attendre, en particulier sur la paix au Moyen-Orient. Et je crois personnellement que ce serait une erreur. Il y a eu une frappe le 1er avril sur l'ambassade de Syrie, de l'Iran en Syrie. Il y a eu la riposte. Il n'y a pas eu finalement de dégâts. Les Iraniens pensent que l'affaire est close. Moi, je pense que Netanyahou aurait parfaitement raison, de raison garder, de se dire que son vrai problème maintenant, c'est bien la bande de Gaza. Il a eu par cette double frappe, une, il a rétabli le soutien de la population israélienne et le soutien de la population
de la communauté internationale.
Et je crois qu'il doit maintenant profiter de cela pour terminer sa guerre à Gaza, s'il veut le faire, mais qu'il aurait tort de se lancer dans une nouvelle guerre dont personne, évidemment, ne connaît l'issue.
Je ne suis pas sûr que Meir Habib soit sur votre ligne, mais je voudrais que Pierre Lelouch d'abord réagisse.
Moi, je suis en gros d'accord avec ce que vient de dire le général. Je pense que cette situation est extrêmement dangereuse, qu'elle a des conséquences incalculable sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'économie mondiale, parce que ça peut entraîner naturellement une hausse vertigineuse du prix des hydrocarbures et toutes sortes de conséquences, notamment sur la campagne américaine. Enfin, c'est vraiment une affaire très lourde.
Bruno Le Maire a dit exactement ça aujourd'hui, hein, ce matin.
Voilà, pour une fois que je suis d'accord avec lui, je ne savais pas. Non, ce qui est important, c'est quand même de mesurer à quel point la frappe iranienne est importante sur le plan historique. C'est la première fois qu'on assiste à une attaque de missiles d'une telle ampleur, out of the blue, comme disent les Américains, ils ont prévenu juste avant, mais c'est une attaque d'un pays qui n'est pas limitrophe avec sa cible. C'est pas du tout comme avec l'Ukraine. La Russie frappe depuis son territoire sur le territoire d'à côté. Là, ils ont survolé 2000 kilomètres pour venir d'Iran. C'est une frappe très sophistiquée en termes d'organisation de la frappe elle-même, avec trois types d'armes, des drones qu'on connaît bien puisqu'ils ont frappé beaucoup en Ukraine, mais également des missiles de croisière et des missiles balistiques. Et ils ont eu au moins une demi-douzaine de types de missiles balistiques différents.
On va peut-être voir une carte tout à l'heure. Il y a une carte qui montre, qui a été publiée par Tzal, qui montre précisément d'où sont partis les missiles, comment ils ont visé. Et vous allez voir l'ampleur. Simplement, je fais circuler la parole.
Juste terminer parce que c'est quand même extrêmement important. Sur le plan technique, la démonstration de force est quand même extrêmement importante. Elle montre que le territoire israélien est vulnérable. Et les Iraniens montrent ça non seulement à leur peuple, mais à l'ensemble du monde arabe. C'est la deuxième fois depuis le 7 octobre que le territoire israélien qui était sanctuarisé est ouvert à des frappes. Donc c'est historiquement un moment très important qu'il ne faut pas passer sous silence en disant finalement il n'y a pas eu trop de...
Non, mais en même temps, 99% de l'attaque, drones, missiles, etc., a pu être déjoué et arrêté.
Dans le brouillard de la guerre, il faudra attendre les retours d'expérience sur exactement ce qui s'est passé, pour avoir une idée précise des dommages.
Meir Habib, que va-t-il se passer dans les prochaines heures?
À la différence du général et du ministre Lelouch,
Je pense qu'Israël doit réagir sur un plan moral, sur un plan militaire, au niveau de la dissuasion. L'Iran a déclaré la guerre à Israël. L'Iran a... On nous parle en permanence du droit international. Le droit international, un pays a attaqué un autre pays avec des centaines de missiles. Quel pays au monde ne pourrait ne pas réagir ? Nous-mêmes, Français, on est sur le point d'envoyer peut-être des troupes en Ukraine, un conflit qui ne nous concerne pas directement. Et Israël, dont l'Iran a à deux points d'avoir l'arme atomique. Olivier Benkemoun, l'Iran avec l'arme atomique, c'est un danger vital pour Israël, mais pour le monde libre. Regardez la Corée du Nord. Plus personne ne peut rien faire. Parce que c'est trop tard. Parce que le monde a été faible. Parce que le monde n'a pas agi.
Donc vous dites que c'est maintenant qu'il faut agir.
Alors
c'est
moi, maintenant. Je dis qu'Israël... Si, je disais, je crois que sur le plateau de... hier, d'un de vos collègues, confrères, si le monde veut prendre ses responsabilités et faire en sorte que l'Iran ne soit pas nucléaire, ce serait une très bonne chose. Et à la limite... Israël pourra peut-être, mais il ne le fera pas, le monde ne le fait pas, les États-Unis ne le font pas, la France, à bout de nef, dit qu'on avait fait tomber quelques missiles, etc. Donc c'est une question d'honneur, et je crois qu'ils le feront. Bah, après, je ne sais pas, ma conviction, c'est qu'ils vont le faire, et très vite.
Le général Desportes a dit quelque chose d'important, l'Iran a dit « l'incident est clos pour nous ». On va écouter la réponse iranienne très importante.
L'opération promesse tenue s'est déroulée avec succès. La raison de cette opération était le franchissement des lignes rouges par le régime sioniste. Nous considérons cette opération comme achevée et nous estimons qu'elle est terminée.
Nous considérons cette opération comme achevée.
C'est tellement facile, c'est tellement facile. Il y aurait pu avoir des centaines, des milliers de morts. Alors c'est vrai que c'est un succès extraordinaire et avant tout pour Tzal, même s'il y a une aide très importante aux États-Unis, une aide plus mesuré.
Mais Pierre Lelouch dit le contraire. Ça montre la vulnérabilité, Pierre, de...
Je veux dire... Bon, moi, je comprends. Ça fait très longtemps que je travaille sur le dossier du nucléaire iranien. Il y avait un accord qui, malheureusement, a été rompu par Trump, qui permettait au moins de contenir ce programme. Depuis 2018, depuis Trump, le retrait de l'accord en question, les Iraniens ont accéléré la production d'uranium enrichi. Et j'ai dit sur ce plateau.
Il le faisait auparavant aussi.
J'ai dit sur ce plateau que le patron de l'agence internationale dit aujourd'hui qu'il n'a plus aucune visibilité et les experts pensent qu'ils ont acquis suffisamment d'uranium pour fabriquer une demi-douzaine de bombes. Donc le délai de construction de la bombe, c'est inexistant. C'est une question de jours, de semaines, etc. Bon, les installations nucléaires iraniennes sont disséminées dans le pays et sont pour l'une dans une montagne et pour les autres enterrées. Une destruction à 90% de réussite d'un programme de cette ampleur, d'après les experts, moi je ne suis pas un aviateur, les gens disent que c'est très compliqué à faire et qu'il faut un certain type d'armes et de bombes que les Américains doivent livrer. Alors est-ce qu'elles ont été livrées ou pas livrées ? J'en sais rien. Mais le feu vert des Américains sur une opération aussi lourde qui déclencherait une guerre, alors là, vraiment régionale, est clair. Donc est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui? Je comprends qu'il y a un risque nucléaire majeur, mais vous savez...
Et donc
c'est...
on ne fait rien.
Attendez,
on fait quand même
attendez, non, 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 attendez, je n'ai pas dit ça. Ces missiles, j'ai dit tout à l'heure que c'était extrêmement grave, que c'est la première fois qu'un État, à 2000 km de distance, survole deux pays voisins pour aller bombarder un troisième État, avec 300 missiles dans une frappe coordonnée entre les drones, les missiles de croisière, les missiles balistiques, et ils en ont toute une cam. Voilà. Ils ont plusieurs autres types d'armes.
Alors regardez Pierre, regardez, ça c'est la carte que l'armée israélienne a publiée dans la journée. On voit d'où partent les missiles, l'Iran, il y a un millier ou deux milliers de kilomètres sur Israël, et il y en a également qui partent du Yémen. Mais juste une chose, parce que le général Desportes, j'aimerais entendre votre réponse à ce que disait Pierre Lelouch. Est-ce que Israël a les moyens, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans l'appui des Américains, de taper en profondeur des positions stratégiques iraniennes et en particulier des endroits où on fabriquerait l'armement atomique?
Pour autant que je le sache, tous les spécialistes de ces affaires estiment qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'aller détruire définitivement les installations de production nucléaire iranienne. C'est ce que tout le monde dit. Alors, il n'est pas impossible que les Israéliens essayent. L'échec est probable et la succession d'événements suite à cette frappe sera évidemment incommensurable, avec une mise à feu pour des mois, des années du Moyen-Orient. Et donc là, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que cherchait véritablement Netanyahou quand le 1er avril, il fait frapper l'ambassade de l'Iran.
C'est pas l'ambassade générale, c'est pas l'ambassade.
J'ai bien compris.
C'est une annexe.
J'ai bien compris.
Il y a une différence majeure. Je vous rappelle que les Iraniens ont frappé l'ambassade d'Argentine. Là, il y a eu 99 morts de façon certaine.
Vous n'avez rien à me rappeler. Nous parlons de gens qui, de toute façon, ne respectent pas le droit international. Je ne parle pas d'Israël, je parle d'autres. Donc, il y a une frappe. Que cherchait-il ? Il y a une stratégie derrière. On ne fait pas d'acte militaire sans avoir une visée politique. Je crois que d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une recherche de liberté d'action politique, liberté d'action qui était perdue vis-à-vis du peuple israélien qui désirait poursuivre la guerre dans la bande de Gaza, mais ne soutenait plus Netanyahou, et recherche de liberté vis-à-vis de la communauté internationale, dont même les États-Unis avaient lâché Israël. Bon, ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'était de se donner une bonne raison d'en finir une fois pour toutes avec le nucléaire iranien. Alors, moi, j'espère que c'était la première raison, parce qu'elle est assez logique, finalement. Si c'était la deuxième, je crains, hélas, qu'on soit rentré dans une série d'attaques et de contre-attaques et de ripostes qui nous conduisent au pire.
Voilà, l'origine de la frappe israélienne, je rappelle.
En général, je crois que vous sous-estimez la force d'Israël. En tout cas, à défaut de détruire totalement, de retarder le programme nucléaire iranien. Mais je vous dis encore une fois, il y a une meilleure possibilité, c'est que le monde prenne ses responsabilités. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, et fasse en sorte que l'Iran ne soit pas nucléaire.
Une seconde. D'abord, je vous montre une image ce soir, parce que depuis dimanche, le régime iranien célèbre d'une certaine manière ce qui est appelé une punition infligée à Israël. Alors ce soir, il y avait de nouvelles images, il y a des manifestations qui sont organisées dans les rues de Téhéran, également pour dénoncer l'attitude d'Israël, où on porte en triomphe des missiles, évidemment. Ce qui est peut-être intéressant d'écouter, c'est la position de la France et la position des États-Unis. On va commencer peut-être par la France, Emmanuel Macron. Et c'est un mot qu'on a entendu toute la journée, c'est le mot désescalade. Désescalade, vous avez d'ailleurs prononcé ce mot tout à l'heure, Emmanuel Macron, ce matin.
La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien à la demande de la Jordanie. Nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région.
Retrouver un chemin de paix dans la région.
Alors là, ça va être un tout petit peu délicat parce que le régime iranien, malheureusement, depuis 1979, est déterminé à tuer Israël, à en finir avec la présence des Juifs en Palestine. Donc, et ils me l'ont dit, je veux dire, disent froidement que leur but, c'est la destruction de l'État d'Israël. Deuxièmement, c'est un régime, on a vu des gens en joie dans les rues de Téhéran. Il faut savoir que c'est un régime qui est honni par le peuple iranien, qui se livre à des exactions épouvantables. C'est une bande, en fait, de voleurs qui sont au pouvoir. Les gardiens de la révolution, entre guillemets, sont un peu comme dans le système de... Les pays communistes, Chine et autres, ils ont littéralement privatisé et pris en contrôle l'économie. Donc c'est une bande c'est un régime kleptocrate, qui utilise la religion pour se maintenir au pouvoir avec un grand ennemi, les États-Unis, l'autre grand ennemi, Israël. Voilà. Donc ils sont dans une logique de guerre. L'attaque du consulat n'est pas venue du Saint-Esprit. Ça fait des années que les Iraniens méthodiquement entoure Israël de missiles et d'armes à Gaza, au sud Liban, en Syrie et maintenant dans les territoires de Cisjordanie. Et donc il y a une vraie raison, quand on est israélien, d'être inquiet de la pression constante de ce pays, doublée de ce programme nucléaire que personne n'a arrêté. Maintenant, est-ce qu'il faut, je le dis à mon ancien collègue député M. Habib, est-ce qu'il faut passer à l'étape au-dessus et rentrer dans un conflit régional parce que les Iraniens répliqueront, ils ont des stocks de missiles à l'infini.
Alors l'Iran a préparé ce soir 1500 missiles balistiques de différents types pour répondre directement à un plan de représailles sur 3 jours.
En 1938, on disait à peu près la même chose. On a voulu éviter la guerre.
On est reparti sur Daladier.
Mon cher
non,
Pierre.
On ne peut pas comparable.
J'ai la conviction. Mon général.
Cette discussion.
Mon général, avec tout le respect que j'ai pour vous. Aujourd'hui, on a des rescapés de la Shoah qui ont 85, 90 ans. Ils ont survécu au plus gros drame que l'humanité ait connu dans un silence absolu des nations. On a tué 6 millions de juifs, 6 millions de leur peuple. Aujourd'hui, ils sont en train de partir, ils sont en train de mourir. Et ils voient qu'il y a un minuscule pays à quel le monde entier a dit pendant des années la sécurité d'Israël est innégociable. On a eu le plus grand massacre, le plus grand pogrom que ce siècle n'ait connu et que peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Personne
et
le monde dit...
Avec l'Iran, 200 missiles arrêtés, et le monde se tait. Moi, j'attends du monde que le monde libre se réveille. De dire Israël défend nos valeurs judéo-chrétiennes dans cette région du monde. La France a été défigurée par l'islamisme. On est à deux doigts d'avoir une bombe islamiste. C'est pas pareil que d'avoir une bombe chez les Russes. C'est pas pareil d'avoir, je dirais même, une bombe chez les Coréens. Bon. Une bombe islamiste serait fatale pour le monde libre, pour la civilisation judéo-chrétienne. Et si jamais le monde ne prend pas ses responsabilités, je peux vous garantir, bien connaître Benjamin Netanyahou, Israël les prendra. Avec le succès, je ne sais pas.
D'abord, il y a déjà...
Il sera limité. Mais vous êtes jusqu'au boutiste, on le sait.
D'abord, il y a déjà une bombe musulmane, c'est au Pakistan.
Mais c'est pas... Non, une bombe islamiste.
Le régime pakistanais n'a rien à envier, alors du côté sunnite, au plus extrême de tous les extrêmes. Il faut savoir que c'est du Pakistan que sont armés les talibans en Afghanistan. J'ai quand même géré ce dossier pendant un an. Vous n'allez pas me dire que le Pakistan
s'il vous plaît, on va revenir juste à la position de la France. Je voulais qu'on voit une carte, parce que la France a agi, a participé, alors de quelle manière, comment, sur combien de cibles, c'est pas très clair, très peu, visiblement, à la demande de la Jordanie. Je voulais juste vous montrer cette carte. Pour vous dire où sont les positions françaises dans la région. Jordanie, Djibouti, Émirats Arabes Unis. En fait, on est, en regardant simplement cette carte, on se dit qu'on est vraiment très très mal placé. On est pris en...
On est très bien placé. On est même placé là. L'origine de la base à Abu Dhabi, j'étais un petit peu là, puisque j'étais le conseiller de Chirac à l'époque. C'est une chose que les Émiriens nous avaient demandé, précisément pour se protéger contre l'Iran, figurez-vous. Donc ces bases, elles ont un sens.
Elles ont un sens.
La question qui se pose, M. Ban Ki-moon, ce soir, c'est pourquoi ces circonvolutions du côté français sur si on est intervenu, d'abord on n'a rien dit pendant très longtemps, le président il a attendu un tweet le lendemain matin alors que les collègues américains et britanniques avaient dit tout de suite on est intervenu en défense d'Israël, pourquoi avoir attendu le lendemain, pourquoi avoir mis cette omerta sur l'interception et expliquer que c'est à la demande des Jordaniens et surtout pas pour aider Israël, ça veut dire quoi? Beaucoup de pays arabes de la région sont inquiets de ce qui s'est passé samedi soir. Tout le monde a la trouille, les Saoudiens, les Émiriens. Personne n'aime l'idée que l'Iran peut balancer des missiles balistiques dans toute la région.
L'Iran veut tuer les accords d'Abraham.
Non, mais bien sûr. Non, mais ce qui se joue aussi dans cette affaire, c'est la domination iranienne sur toute la région.
Bien sûr.
Ce qui est d'ailleurs un des résultats assez paradoxaux de la guerre de M. Bush en Irak en 2003, puisqu'on a cassé l'Irak et on a laissé le terrain à l'Iran. C'était drôlement bien joué. Mais enfin, on en est là aujourd'hui. Donc, est-ce que l'intérêt du monde, c'est de passer à l'étage au-dessus et de déclencher une guerre régionale, qui sera d'ailleurs très difficile pour Israël, puisque tout le monde va s'y mettre, les Syriens, les Irakiens, les milices chiites en Irak, les contingents afghans et autres qui sont présents en Syrie,
donc
ça va faire du monde.
Mais est-ce que c'est vraiment le but?
Ça veut dire qu'il y a aussi des choses en stratégie qui s'appellent la dissuasion et en diplomatie qui s'appellent la négociation.
En général, si la France avait eu quelques milliers de missiles sur son territoire, je vous parle droit dans les yeux. Vous pensez que la France n'aurait pas dû intervenir, quoi qu'il arrive ?
Alors, écoutez, je ne sais pas. Les situations sont différentes. Mais je crois qu'une vertu stratégique est importante, c'est la patience stratégique. Est-ce qu'il est temps maintenant pour Israël de lancer une autre guerre alors qu'elle n'arrive pas à se dépêtrer de la guerre dans Gaza ? Moi, je ne le pense pas. Et je pense que la meilleure façon de régler son problème avec le Hamas et le Hezbollah, c'est pas d'enflammer l'intégralité du Moyen-Orient.
Général, vous pensez ce soir qu'en disant il va y avoir une riposte dans les prochaines heures, imminente, sans doute. C'est une erreur stratégique.
Ça dépend de la riposte.
Si on va frapper un peu le Hezbollah, un peu les Houthis, etc., et peut-être qu'on rentre dans Rafah, ce que je n'approuverai pas. Mais si vous voulez, c'est d'une autre nature.
Une question d'intensité.
Frapper, et pourquoi vous n'approuverez pas ?
Comment ?
Il faut libérer des otages. Il y a des femmes qui sont en train de se faire violer. Ils ont massacré, ils ont tué. Israël est un droit de légitime défense. Pendant des années, le monde a dit Israël a le droit de se défendre. La sécurité d'Israël est innégociable. Alors que le monde, au contraire, soutient Israël. Vous êtes dans votre droit. Je peux vous dire qu'ils auraient beaucoup plus peur. Si le monde entier dit attention aux Iraniens. Ils ont peur, les Iraniens. Ils ont dit game over, c'est fini. On a arrêté. On est un partout. Stop, monsieur Meyer.
On n'est pas raisonnable. On ne peut pas avoir une conversation sur ce ton-là. Je suis désolé.
Mais franchement,
on n'est pas dans le voilà. Si on est en train de savoir comment on gère une situation de ce genre, si on est à la place de.
Mais l'écrasante majorité du peuple israélien veut une réponse.
Ok, on l'a entendu. Peut-être. Mais d'abord, j'en sais rien.
L'écrasante
majorité veut aller.
Je représente 200 000 Français qui habitent en Israël. Je leur parle tous les jours sans arrêt.
Est-ce que tout le monde a envie de déclencher une guerre totale ?
Personne n'a envie de la guerre. La guerre, c'est jamais une bonne solution. Il y a pire que la guerre, c'est que l'Iran ait l'arme nucléaire.
Bon, écoutez, si je ne peux pas parler, je peux m'en aller.
Non, mais vous restez.
Attendez, s'il vous plaît, en permanence la parole.
On essaye d'avoir un échange, ça ne sert à rien sinon. Ça ne sert absolument à rien.
Absolument.
133 otages, je le rappelle, et comme tous les soirs, on rappelle aussi qu'il y a 3 franco-israéliens, Ofer, Orion, Ouad, et c'est important pour nous de le rappeler, de demander évidemment leur libération sans condition. Moi, j'aimerais qu'on regarde à quoi ressemblent ces drones qui ont attaqué, parce que c'est très important. Je lisais tout à l'heure un papier, ces drones qui ont été utilisés, ces chaïds qui ont été utilisés qui sont produits d'ailleurs par l'armée iranienne, par l'Iran, sont comme des Kalachnikovs. C'est-à-dire que c'est vraiment une arme qui ne coûte pas cher, qui est plus ou moins efficace. Je ne sais pas, vous allez me le dire, général Desportes, mais en tout cas, qui est, quand on en envoie 300, c'est qu'on a une capacité énorme, une réserve énorme.
Non, ce n'est pas 300.
Enfin, vous avez raison, 300
au total. C'est une arme qui est efficace, mais pas contre le dôme de fer, auquel on rajoute les armes américaines, françaises et britanniques. Mais c'est une arme, les drones iraniens qui volent au-dessus de l'Ukraine aujourd'hui montrent bien leur efficacité. À partir du moment où on n'a pas une défense antiaérienne aussi dense que celle contre Israël, ils y arrivent à passer. Qu'est-ce que c'est qu'un drone ? C'est un petit avion avec de l'explosif. Voilà, ça passe. Mais quand on a une défense aérienne extrêmement dense, et c'est bien le cas du dôme de fer, ça ne passe pas.
Vous pouvez nous expliquer, par exemple, les images qu'on voit là, en ce moment, on est à l'intérieur d'un cockpit, j'imagine, parce qu'en fait, il faut les détruire un par un.
D'un cockpit d'avion, là. Oui, effectivement, il faut le repérer et le tirer. Mais je pense que la majorité, on ne les tire pas au canon, on les tire avec des armes qui vont s'autoguider sur la chaleur, sur l'infrarouge.
Mais quand on a des essaims de drones,
voilà, c'est un drone chaïd, ça. Vous voyez ? Ça.
Et quand on a des essaims, comment on fait
après, vous avez des systèmes qui sont plus rapides, qui sont des missiles de croisière, c'est un missile de croisière, qui fait 600 km/h à peu près, le chaïd est beaucoup plus lent.
180,
et après, le vrai sujet, pour le dôme de fer et la défense antiaérienne, c'est les missiles balistiques. Et surtout les missiles hypersoniques et les missiles guidés en phase terminale. Il y a un certain nombre de missiles dans les arsenaux iraniens qui sont très problématiques et qui n'ont pas été surveillés par la communauté internationale, malheureusement, depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a... Il y a eu une défaillance là-dessus. Il n'a pas tort, monsieur Meir.
Merci, cher Pierre Lelouch.
Non, mais attends, j'ai... Encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. La France a été une des diplomaties qui a le plus poussé sur la non-prolifération en Iran. Simplement, avec Obama, il fallait signer, on a signé un peu vite en laissant tomber tout le côté missile et tout le côté d'ailleurs des actions iraniennes avec leurs proxys dans les pays arabes. Les trois dossiers étaient sur la table. À la fin de la fin, il y a eu cet accord uniquement sur le nucléaire. Qui est aujourd'hui perdu. Donc, dans la négociation.
Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, Pierre Lelouch.
Général, juste une chose. Quelle est la réalité, rapidement, de la puissance iranienne
Alors, elle existe évidemment. Antoine, tout à l'heure, 2500, c'est vous qui le disiez. Elle est évidemment puissante. Quand on est militaire ou un tout petit peu stratège, on prévoit une riposte à la première action. Mmh. Et donc, elle est tout à fait importante. Et vous avez remarqué que ce sont les missiles balistiques qui sont passés. C'est ça. Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'arrêter un missile balistique qui tombe par gravité que d'arrêter un drone ou un missile de croisière.
On dit 3000 missiles environ. On disposerait.
3000 missiles. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il est clair que l'Iran possède un nombre considérable de missiles balistiques, puisque c'est avec ces armes-là qu'il tirait l'arme nucléaire. Donc il en a à revendre. Et c'est pour ça qu'Israël, moi je ne sais pas le nombre d'armes que détient Israël, mais il est clair qu'Israël a déjà dépensé une partie sûrement non négligeable de son stock d'armement et que ça ne peut pas se reproduire indéfiniment, en particulier sans le soutien des Américains. Et donc ça, c'est une question que doit se poser Netanyahou.
21h32 quasiment. Simon Guilin nous rappelle les titres. Salut Simon.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. L'ADN analysé dans le Doubs n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Après plusieurs signalements, des gendarmes avaient prélevé de l'ADN sur des canettes qui avaient été consommées par un visiteur qui s'était rendu dans un couvent près de Besançon. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur place, a précisé le procureur de Nantes. Nouvelle attaque au couteau à Sydney en Australie. 4 personnes ont été blessées dans une église de la ville pendant une messe. Un suspect de 15 ans a été interpellé sur place par les forces de l'ordre. Au moins 2 policiers ont été hospitalisés lors de violentes protestations qui ont suivi cette attaque. Et puis un procès historique s'est ouvert aujourd'hui aux États-Unis puisque l'ancien président américain Donald Trump est jugé pour une affaire de paiement qui était destinée à acheter le silence de l'ancienne star du porno Stormy Daniels. Des paiements qui auraient été effectués à quelques jours de l'élection de 2016. Et en arrivant à son procès, Donald Trump a évoqué une attaque contre l'Amérique, cher Olivier.
Merci beaucoup Simon. Quelle est la position américaine pour l'instant, enfin ces dernières heures, au moment de cette attaque? Évidemment, ça a été... d'être aux côtés d'Israël totalement, mais pour la suite, Joe Biden ne veut pas d'une escalade. Je voulais juste vous montrer cette petite séquence au téléphone où il félicite les pilotes de l'Air Force qui ont participé aux opérations.
Vous êtes les meilleurs au monde, les gars. Vous avez fait une énorme différence, sauvant potentiellement beaucoup de vies. Grâce à leurs compétences extraordinaires, les États-Unis ont aidé Israël à abattre la quasi-totalité de ses missiles. Vous êtes tout simplement incroyable. Je m'excuse pour mon enthousiasme. Je suis censé être plus réservé.
Donc, peut-être on peut dire un mot de la puissance américaine dans la région. Les moyens américains sont considérables.
Ils sont considérables immédiatement. Et puis l'Amérique a des moyens tels qu'elle peut frapper à peu près n'importe où dans le monde quand elle le veut, en quelques heures. Et la puissance américaine n'a pas été égratignée en termes de puissance aérienne et de puissance navale par la guerre en Ukraine. Donc il est sûr que si les États-Unis apportent leur aide à Israël, c'est une aide absolument considérable et déterminante.
Dans la région, il y a quoi? Il y a 40 000 hommes. Juste la base de Doha, je crois que ce sont 10 000 hommes qui sont sur place.
Alors les chiffres exacts, je ne les connais pas. On a un groupe aéronaval en mer Rouge. On a les bases en Turquie. On a, il y a beaucoup
une grosse base à Qatar.
Oui. Au Qatar, exactement. Ou à Qatar, peut-être.
Le groupe aéronaval, je crois qu'on a quelques... Ça, c'est de la dissuasion militaire très, très importante. Je crois que c'est plus fort. Un porte-avions, c'est plus fort que... certains pays européens. Hein.
Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'un porte-avions, c'est aussi vulnérable. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Iran sait bien que face à la puissance américaine, elle ne peut pas résister. Et c'est bien pour ça que l'Iran n'a absolument pas envie de rentrer dans une déflagration générale dans laquelle elle ne pourrait évidemment que perdre.
La stratégie de l'Iran, c'est l'interdiction. C'est de lui permettre à eux de faire ce qu'ils veulent, autour d'Israël notamment, c'est-à-dire... Hezbollah, Gaza, Cisjordanie, contrôler l'Irak. Ils ont réussi à contrôler une demi-douzaine d'États autour. Hein. Ils contrôlent le Yémen, ils contrôlent le Liban, ils contrôlent la Syrie, l'Irak. C'est considérable ce qui a été fait par les Iraniens ces 10 dernières années. Mmh. Donc là, le nucléaire pour eux, l'hypothèse d'une dissuasion et en attendant d'une dissuasion par une frappe massive de missiles, ça leur permet une interdiction d'action de tous les autres contre leur territoire, parce que le prix à payer sera très cher. Alors, si Netanyahou décide d'entrer dans cette escalade, le prix sera très cher pour Israël, pour l'Iran,
Et il y aura des conséquences majeures sur le plan international, sur le plan stratégique et économique. C'est simplement ça que je dis. Après, c'est une décision qu'il peut prendre comme État souverain. Je pense que c'est pas la meilleure, mais c'est mon avis.
Mais il a beaucoup de possibilités. Il a des manières secrètes, des attaques cyber, enfin l'éventail des possibilités.
Moi, si je choisis l'escalade, pour d'autres raisons.
Je ne sais pas comment les Israéliens vont réagir. Mais pour bien connaître Netanyahou, depuis plus de 33 ans, il va réagir. Et je vais vous dire quelque chose. Il le fera avec l'accord de son totalité quasiment du cabinet de guerre. On oublie, tu l'as évoqué, le Hezbollah qui a défiguré le Liban, qui a des centaines de milliers de missiles et armes, mais qui sont pointés sur Israël. Le Liban, qui était un pays suisse du Moyen-Orient, où les chrétiens sont en voie de disparition progressivement dans ce pays. Donc la guerre, c'est jamais bien. Qui peut vouloir une guerre? Mais parfois, c'est un moyen indispensable pour arriver à la paix. Et j'ai aucun doute, Olivier Benkemoun, que les Américains seront aux côtés d'Israël si jamais Israël intervient. Tout récemment, il y a deux heures de temps, le président américain a dit qu'il ne s'opposait pas à une riposte et à une réaction.
Joe Biden a dit, attends, il faudrait vous contenter de cette victoire également.
Ça a évolué depuis tout à
l'heure. J'ai un gros doute sur le fait que les Américains rentrent en guerre. Alors évidemment, si c'est le scénario d'une attaque sur le territoire iranien, il y aura une escalade qui sera extrêmement coûteuse et qui peut-être entraînera une escalade américaine. Mais dans l'état actuel des choses, en campagne électorale, avec un problème à Gaza, un autre en Ukraine, un troisième en Asie, je ne vois pas Biden commencer une nouvelle guerre.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite du Meilleur de l'Info. Je vous rappelle la principale information de la soirée, la riposte annoncée par Israël contre l'Iran, annoncée par Herzi Halevi, qui est le chef d'état-major de l'armée israélienne. Le cabinet de guerre s'est réuni. Benjamin Netanyahou aurait demandé à Tzal de préparer une liste ciblée potentielle pour sa riposte. Et selon un responsable israélien, Israël souhaiterait envoyer un message clair à l'Iran, mais sans faire de victimes. L'armée de l'air achève en ce moment des préparatifs, calendrier évidemment confidentiel pour ne pas permettre aux Iraniens de créer une nouvelle équation au Proche-Orient. Est-il possible d'avoir une riposte non escalatoire?
Moi, je pense que c'est possible. Tout dépend de la nature des cibles que va frapper Israël. Et puis, encore une fois, Israël peut frapper en dehors, peut aller frapper les proxys, peut faire des attaques cyber, etc. Peut riposter pour dire « je ne supporte pas ce que vous avez fait, mais finalement, grâce à nous, vous n'avez tué quasiment personne, même personne d'ailleurs chez nous. Donc je riposte parce que je m'oppose à ce que vous avez fait et je ne peux pas laisser ça impuni, mais on en reste là sur cette affaire-là. Mon problème à moi, c'est la bande de Gaza. Bien sûr, c'est possible d'avoir une riposte non escalatoire.
Le problème de l'arme nucléaire, est-ce qu'on a toujours entendu dire que l'Iran était à quelques mois, quelques années, peut-être
quelques jours
aussi, d'avoir l'arme nucléaire?
Je ne pense pas que ce soit quelques jours. Je crois comprendre, d'après les Israéliens qui sont à moins d'un an de pouvoir avoir l'arme nucléaire, ce qui serait un drame. Je le répète et je le dis en permanence, peut-être dans le vide, mais je dis ce que j'ai. C'est mon intime conviction, ce sera un drame, pas pour Israël, pour l'humanité, parce que s'ils ont l'arme nucléaire, ils s'en serviront. Qui pouvait imaginer ce qui s'est passé le 11 septembre? Personne. Une arme aux mains d'islamistes est un danger vital pour l'humanité. Et là, on aura une escalade que personne ne peut imaginer. Alors, l'idéal, évidemment, c'est que le monde prenne ses responsabilités et qu'Israël ne le fasse pas. Je l'ai dit et je le redis. Mais les Américains sont engagés en permanence, qui est la puissance militaire numéro un au monde, à ce que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Après, le peuple iranien est un immense peuple, et je crains que si jamais le monde n'agisse pas, ils aient l'arme nucléaire. Je crois, et je terminerai là, qu'Israël, si jamais le monde ne prend pas ses responsabilités, les prendra avec succès, avec échec, le futur nous le dira.
Pierre Lelochon, voit bien qu'il y a une volonté impérialiste en ce moment, qui titille les pays. On a vu la Russie, évidemment, l'Iran, peut-être la Chine, demain, ça vous inquiète?
La Turquie.
Oui, moi je termine un livre sur ce sujet-là. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de changer de monde. C'était la thèse de mon livre qui va sortir, j'espère qu'il n'y aura pas trop de guerre d'ici là, en septembre. C'est de dire que la guerre en Ukraine a été un accélérateur de changements profonds qui étaient déjà dans le système mais qu'on ne voyait pas nécessairement. Mais là, on est vraiment dans une... Et c'est pour ça que cette affaire iranienne est très importante. on est dans une espèce d'utilisation de la force de façon totalement décomplexée, sans aucune règle internationale. Entre la Yougoslavie, l'Irak, et maintenant, regardez ce que les Turcs ont fait en Arménie. Quand même, épuration ethnique, destruction d'une région entière d'Arménie, personne n'a bougé.
Absolument.
Les Russes sont entrés en Ukraine et en pensant que c'est à eux, que ça, il y a toute une histoire de 900 ans, il y a toutes les raisons du monde pour faire la guerre des deux côtés, ils la font. Et maintenant, cette affaire iranienne est extrêmement grave parce que c'est la première fois qu'on voit une attaque à distance avec un flot de missiles. Et là où je rejoins Meir Habib, c'est que moi je me pose la question à savoir quelle sécurité en Europe pour les années qui viennent. Imaginez qu'on ait affaire, dans 10 ans, à des pays du Sud malveillants qui développent ce genre de saloperie pas cher, parce qu'un chaïd, ça coûte pas cher.
Ce que je dis, c'est la Kalachnikov.
C'est quasiment rentable, les Turcs en fabriquent, les Iraniens en fabriquent. Imaginez que vous ayez des pays malfaisants qui décident, de pas très loin d'Europe, à 2000, 3000 kilomètres de nous, d'envoyer ce genre de saloperie avec des armes chimiques dedans, ou même avec des armes de conventionnelles, pour créer la terreur à l'intérieur de nos villes. Et je dis qu'il faut tout de suite, et je le dis au général qui a enseigné la défense, comme moi d'ailleurs, à l'école de guerre, il faut vraiment que la France se prenne par la main et réfléchisse.
Juste une réponse après, je voudrais qu'on termine avec Alifi, s'il vous plaît.
Non, moi, je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait important. Il faut que l'Europe se prenne en main et devienne évidemment un acteur géopolitique majeur et soit capable d'assurer par elle-même sa défense, ce qu'elle est extrêmement loin de faire. Il y a une accélération du temps qui fait qu'on ne peut plus confier notre défense à d'autres et nous devons avoir une politique étrangère autonome dans le respect des nations. Mais aujourd'hui, il est tout à fait anormal que quasiment la première puissance économique au monde, 450 millions d'habitants, un PIB tout à fait honnête, soit incapable de se défendre par elle-même face à des menaces qui viennent. Et j'espère que ces crises-là vont faire prendre conscience à l'Europe de la nécessité absolue qu'elle soit capable, en autonome, d'assurer sa propre défense.
Bon, toute la classe politique française a été absolument unanime, toute sauf LFI, qui a renvoyé notamment dos à dos l'Iran et Israël. C'est Ersilia Soudé, qui parle de deux théocraties. Ces deux pays sont des théocraties, par ailleurs, en bombardant une ambassade iranienne, Israël déclarait la guerre à l'Iran. Lors d'un meeting pour les Européennes à Montpellier dimanche, on a largement également crié Israël assassin. Regardez cette séquence.
La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens.
L'antisionisme fait partie de la stratégie de campagne de LFI. Enfin, on a bien compris. Vous allez voir également une affiche pour un meeting ou une conférence avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà, conférence. Et en bas à droite, vous avez marqué libre. Hein, on va peut-être le voir en gros. Voilà, libre Palestine. Là, en fait, il n'y a plus d'Israël.
C'est pour ça que c'est de la mer au Jourdain.
C'est pas de l'antisionisme.
Ils ont prêté serment à la charia. Mais oui. Ils sont sur la même ligne que les Iraniens, que le Hamas et que les Hezbollah. La Palestine, c'est de la mer au Jourdain. C'est ce que j'ai voulu pénaliser à l'Assemblée nationale. La négation de tout pays, et accessoirement Israël, qui est le seul et unique État juif, mais qui dérange tellement. C'est ça la nouvelle antisémitisme.
Bon, C'est du négationnisme. Normalement, c'est les tribunaux.
J'ai demandé au préfet d'interdire ce meeting, parce qu'on ne peut pas...
Xavier Bertrand aussi, hein, le président de la région, nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France insoumise qui, à travers le logo Libre Palestine, nie l'existence de l'État d'Israël. Voilà, je demande son annulation, Pierre Lelouch, pour terminer.
Ce qui est tragique, si vous voulez, dans cette affaire, c'est une des choses que je développe aussi dans mon livre, c'est que...
Il va y avoir des choses dans votre livre.
Oui, beaucoup de choses, croyez-le. Une des choses très lourdes et très graves, c'est que le droit est perverti. Quand vous voyez qu'un pays comme l'Afrique du Sud, suivi par cette bande de voleurs d'Ortega, du Nicaragua, vont à l'instance juridique suprême, la Cour internationale de justice, pour expliquer que l'État d'Israël est un pays génocidaire alors qu'il est lui-même né d'un génocide, que l'Allemagne est un pays complice du génocide parce qu'elle a livré des armes à Israël. On a réécrit, renversé, perverti les normes de droit international. Et c'est très, très, très grave. Mais quand la Cour dit, ah ben non, c'est peut-être pas complètement...
Mais Pierre Lelouch, le Parti socialiste français, veut arrêter la livraison d'armes à Israël. Qu'est-ce qui se passerait si Israël, aujourd'hui, n'avait pas eu d'armes? Il y aurait eu des centaines de missiles. Est-ce que le monde peut ouvrir les yeux ce qui est en train de se passer? Je parle du Parti socialiste, je parle même pas de LFI.
On a terminé, juste un mot de conclusion.
Eh bien, ce que je regrette, c'est que finalement cette guerre dans Gaza n'ait pas été conduite de manière à préserver le soutien international et en parfait accord avec le droit international, nous n'en serions pas là.
Merci beaucoup à tous les trois, même si ça a été parfois un peu... Mais je suis sûr que vous aimez, au fond, vous retrouvez. Merci beaucoup. Merci beaucoup dans un instant, Maureen Vidal, pour le 22h, 22h30, Julien Pasquet, Soir Info.
Non.
Mais bien sûr.
Ah, le droit international, si jamais Israël avait fait comme nous, on a fait à Raqqa et à Mossoul, ils auraient rasé du haut, ils seraient pas rentés, il y aurait eu
Meilleur, c'est terminé, mais vous recevrez le livre dédicacé, j'en suis sûr, de Pierre Lelouch, dès sa sortie en septembre. Merci beaucoup.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.